embarque, on n'ira pas vite.
Embarque, on n'ira pas vite.
FM 93, Dupont le matin.
Bon matin tout le monde, puis ceux qui le savent pas, bon vendredi, oui c'est vendredi, pour les gens qui font, qui travaillent en semaine, ben c'est votre dernier lever du corps, et que vous allez profiter, j'allais dire d'un beau week-end quand même, il y a de la pluie attendue, puis comme j'ai dit plus tôt cette semaine, on se croirait dans les pays du sud, parce que la pluie passe la nuit, fait que ça nous dérange un peu moins, et ça nous donne de belles journées, alors ce sera intéressant, 10 degrés au maximum samedi, 8 degrés pour dimanche. Il y a de la pluie qui va arriver dimanche, mais vraiment là davantage en fin de journée dimanche. Fait que et c'est des épisodes de pluie, donc des averses. Je pense qu'on aura quand même de belles périodes de soleil à travers ça. Ce qui est étonnant, c'est les températures qui s'en viennent. Et là, je ne ferai pas mon purologue, mais plutôt vous traduire ce que mon application de Weather Channel me donne.
Parce que là, c'était une journée comme ça, puis on est rendu à 3 dans mon application à moi.
3, tu veux dire quoi?
En bas de 0 la semaine prochaine.
En bas de 0 la nuit?
Oui.
La nuit, c'est ça. Ben là, moi, je n'ai juste 2.
Okay.
Mardi, je suis de retour à 5 degrés.
Okay.
Mais dans la nuit de dimanche à lundi, moins 5 degrés dans la région de Québec. 8 dimanche le jour, je vous l'avais dit. Fait que lundi matin, quand on se lève, il va être négatif, là. Tu comprends? Fait qu'on aura le droit de chialer à
moi
la radio.
Aussi, je vais être négatif.
Et c'est 2 dans la journée de lundi, même si le soleil sera présent, c'est 2 le maximum pour la journée. On retourne à moins 3 dans la nuit de lundi pour revenir à 10 mardi. Et là, suite à ça, j'ai encore, tu sais, plus tard, j'ai une nuit à moins 1 puis une nuit à moins 2 mercredi et jeudi.
C'est ça.
Alors, mais on verra, c'est un peu loin. Ça, c'est des, c'est vraiment plus aléatoire, tiens, comme prévision. Alors, voilà pour la météo à venir pour le week-end. Allons-y, en bas qu'on n'ira pas vite, des nouvelles que l'on partage avec vous. Chaque membre de l'équipe a choisi sa propre nouvelle, mais on commence avec Pierre et les nouvelles à retenir à ce moment-ci.
Ouais, suivi de l'incendie de Saint-Georges, simplement vous dire qu'on a maintenant l'identité du jeune garçon de 12 ans qui est décédé dans cet incendie-là. Il s'agit de Jean-Félix Coutu-Lefebvre, donc 12 ans, malheureusement. Mais on doit au moins quand même vous transmettre l'information.
Et je dois dire, on va corriger quelque chose, puis c'était la nouvelle que Dan Pou avait choisie hier. Donc, les informations, puis je comprends que c'est variable d'un endroit à l'autre, mais mes sources sont fiables. Là. C'est que, donc, les pompiers vont aller dans les résidences. Ils font pas tout. Il y a pas un, c'est pas systématique. On essaie de couvrir le plus grand territoire possible, mais ils vont passer, ils vont cogner chez vous. Moi, c'est arrivé chez mon frère. Fait qu'ils cognent, ils rentrent. Un des détecteurs de fumée n'est pas fonctionnel. OK? À ce moment-là, là, ça fait quand même quelques temps de ça. Et ils vont lui émettre un avertissement par écrit, tout simplement, et dire, vous devez corriger la situation. Et ils lui ont donné, je pense, une semaine, genre, et ils l'ont rappelé. Est-ce que vous avez corrigé la... T'sais, ils sont pas allés vérifier, puis c'est pas dans le but, puis c'est... Je trouve que c'est l'agissement mitoyen entre Dan qui disait, ben là, on commence pas à rajouter des règles, mais en même temps, ce serait sécuritaire, puis on va sauver des vies. Mais de rappeler, puis de dire à la personne, as-tu fait les modifications? T'sais, ça te répond, oui, je les ai faites. Imaginez que les pompiers ont ça sûrement par écrit, puis il arrive un incendie à cet endroit-là, puis on s'aperçoit que les détecteurs de fumée étaient non fonctionnels. Vous avez de l'air fou, pas à peu près. Vous n'êtes pas accusé de rien, mais vous avez de l'air fou. Puis c'est de jouer avec la vie des vôtres, puis de leur dire également, quand vous êtes des enfants dans la maison, tu sais, ça fait longtemps de ça, c'était la veille fête, là, je suis rentré un soir un peu tard, puis j'ai brûlé une toast. Puis le détecteur a parti. Puis moi, il parle en plus. Moi, tu sais, c'est il crie comme un détecteur de fumée seul sait le faire. Puis il dit feu, fire, feu, fire. Tu sais, il crie ça à travers les bips. Et les enfants, on était les 6 à la maison. Personne s'est levé. Personne n'a bougé. fait que
parce que t'es intervenu rapidement ou
ben là j'avais rapidement rapidement ça appliquait pas à cette heure-là là mais oui j'ai pogné le linge à vaisselle puis je l'ai secoué au-dessus du détecteur pour qu'il arrête mais il a sonné quand même pendant
parce que malheureusement notre premier réflexe c'est toujours de penser que c'est une fausse alerte.
Ouais. Ben c'est ça puis les enfants se sont réveillés tu sais mais mes gars ils savent que je cuisine mal fait que les autres ils, ça leur a pas mais il a fallu quand même qu'on en reparle tu ouvrais la porte tu fais un coup d'œil
ouais au
t'sais, moins tu peux pas te lever pantoute puis t'en revirer de bord tu peux pas faire ça.
Non.
Tu comprends? Puis les petits, on leur a dit aussi. Mais les petits, ils sont plus petits, hein, à 14 et 12, hein, les plus jeunes, on leur a dit les possibilités. Il y a l'escalier qui va directement dehors. Il y a les fenêtres de chambre qui sont là pour ça, qui sont pas très, très difficiles à ouvrir, puis qui peuvent te faire sortir dehors. T'sais, c'est pour ça que je ne sais pas comment c'est la norme de construction, mais dans un sous-sol où il y aura une chambre pour une personne. Je pense que la fenêtre doit avoir un minimum de 30 pouces. Alors qu'à l'époque de mes parents, moi, je passerais plus dans le châssis de cave du sol de chez mes parents, là. Je serais pris là, là. Tu sais, ils me verraient.
Il
y aurait la moitié de brûlé en dedans, puis l'autre moitié dehors, là. Je vois pas comment que ce serait différent de ça. Mais en tout cas, pour vous dire que, il y a plusieurs endroits où les pompiers semblent faire des vérifications et des vérifications qui vont être, qui vont avoir un suivi, donc.
Ils font de la sensibilisation.
Ouais, pis c'est ça, à ce niveau-là. Très cool.
Je vais maintenant avec une intervention du SPVQ qui a été appelé vers 1h10 cette nuit sur la rue Hamilton pour un homme de 23 ans qui était blessé par arme blanche. La victime a été transportée à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie, mais il n'y a pas d'arrestation pour l'instant dans ce dossier-là. Il y a une enquête qui est en cours pour savoir ce qui s'est passé. La rue Hamilton, c'est dans le secteur Limoilou, là, un peu plus précisément.
Scoop! J'ai un scoop!
Vas-y. Oh, Edouard. Oh.
À 7h13 précisément, Cogeco Nouvelles refuse d'entériner ce qui va être dit, mais Stéphane Dupont vous confirme des choses. Première chose, le titre de mon scoop, ce serait « Vous croyez que la guerre des motards ou la guerre des gangs est terminée et vous êtes carrément dans l'erreur ». Au contraire, ça bouillonne plus que jamais. Vous savez que on est passé à, j'allais dire, je vais essayer de vous le donner comme je l'ai appris, là, à 2 heures près d'intercepter le Pic Turmel, qui est le chef donc des Blood BFM. Family Mafia, BFM. Donc, on est passé à 2 heures près de l'intercepter. Il a des moyens financiers. Il a des moyens également pour se transporter. Selon les renseignements que j'ai obtenus, ce matin, il est au Maroc. Et ça va être encore plus difficile de le retrouver. Mais on était sur sa trace. Puis comme je vous dis, on est arrivé pour l'intercepter. Puis il venait de partir. Fait que...
Quand tu dis 2 heures, donc c'est ici au Québec? Je comprends qu'on n'est pas
qu'est-ce
à minute. On est passé à 2 heures de l'intercepter avant qu'il quitte le Canada, disons? Ou
Non. Il était déjà dans un autre pays.
Okay,
là.
Okay,
moi,
okay.
Moi, j'avais guessé qu'il était au Canada parce que son passeport était échu. Mais là, il se promène d'un pays à un autre. Là.
Ouais.
Comment il le fait, je le sais pas. Mais semble-t-il que des faux papiers, c'est pas si difficile que ça.
Okay.
Et surtout que c'est pas si dispendieux que ça. Et quand on est arrivé, les renseignements menaient les autorités à un endroit. On est arrivé, il venait de partir. Est-ce qu'il l'a su, il l'a senti ou quoi? Et actuellement, Turmel serait au Maroc. Donc, caché là-bas, chez des... Mais... peut-être pas si bien caché que ça, parce que on peut croire qu'il y a des liens à l'endroit où il serait caché au Maroc. Il y a peut-être des liens avec des familles qui ont immigré ici à travers les années. Donc, ce serait à voir.
C'est pas très loin du Portugal où on croyait qu'il se tairait pendant un certain temps.
Il était là.
Okay.
Il était là.
Il était bien.
Ouais.
Okay.
Fait que, et là, donc, et aussi, bon, la dernière fusillade qu'il y a eu, ne pas trop parler, c'était à Sept-Îles. C'était le gars à Sept-Îles. Mm-hmm. Il s'est fait tirer, c'est à 138.
La 138 a été fermée, là.
La 138 a été fermée longtemps. C'était à Sept-Îles. Les règlements de compte à Sept-Îles. Il me disait, viens, c'est bizarre, quand même. C'est un gars de Lévis qui s'est fait tirer par 3 gars de Lévis.
À Sept-Îles.
À Sept-Îles. Évidemment qu'on est ici sur, Catch Me If You Can. Donc, on est ici en présence d'un gars qui va se cacher quelque part, mais que Blood Family Mafia envoie 3 individus, dont un mineur. Ça, c'est hallucinant. Dans Blood Family Mafia, là, le nombre de mineurs impliqués, armés et prêts à faire n'importe quoi pour le chef. OK? Prenez mes propos avec un petit peu de romance. J'invente rien. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui raconte ça, quelqu'un qui me raconte ça. Tu sais, tu comprends, je connais l'identité des gens à qui je parle, fait que je connais la crédibilité de ce que ça dit. Puis en même temps, des fois, pour bien vous faire comprendre, tu sais, si les personnes qui m'en parlent, tu sais, m'ont pas dit que les mineurs, on leur mettait des guns dans les mains, mais il faut comprendre que oui, c'est ça qui arrive. Il y a des mineurs et qui sont prêts à tout. C'est ça qui est étonnant. Et dans plusieurs épisodes de criminalité, il y avait un mineur, que ce soit les cocktails Molotov, quand il y a eu des arrestations, puis tout. Puis ce que j'ai appris hier, c'est juste pour vous donner une idée, puis ça aussi, on aurait dû allumer puis se poser des questions. Quand le gars s'est fait tirer, là, 21 balles, l'individu, là, moi j'ai son nom, j'ai son identité, tout, il a reçu 21 balles. Il est pas mort. Mais quand il a été tiré, là, sur le bord de la route, puis que les individus se sont sauvés. Je comprends, sauver de cette île, vous allez me dire, c'est assez difficile, il y a rien qu'une route. Puis on a arrêté les 3 individus rapidement. Mais rapidement, en tout cas dans les heures qui ont suivi, c'est que le gars, il est pas mort. Il savait très bien qu'il avait tiré dessus, puis il les a identifiés. Fait que la police ont pu les arrêter, dont le mineur en question.
Mais là, 21 balles, il est pas mort, ils ont coulé leur examen, eux autres.
Ben là, je le sais pas honnêtement, ça. Et même moi, j'ai de la misère à croire ça, mais ma source est très solide. Fait que, mais peut-être un tough, le gars, là. T'sais, tu te remontes la vidéo du gars qui s'est fait couper l'oreille?
Non, Michel Auger a pris quoi, lui? 7 balles, me semble, dans le parking du Journal de Montréal, puis c'est pas possible. Décédé. Je suis de mémoire, mais tu sais, si tu touches pas un organe vital...
C'est ça.
Il y a moyen de s'en sortir, mais hey, mais faut être chanceux là, dans les circonstances.
Et là, ça va grouiller encore ici. Et là, actuellement, c'est que de ce que moi j'en comprends, de ce qu'on m'explique, c'est que la campagne de peur des Blood Family Mafia semble fonctionner sur des personnes reliées aux Hells Angels.
Okay.
Parce que là, les Hells semblent pas être en mesure de se défendre. Et que là, il y a des associés aux Hells qui distribuaient la cocaïne dans les rues.
Ils changent d'allégeance?
Ben, ils changent pas d'allégeance, mais ils n'ont pas le choix. Fait que quand la Family Mafia leur apporte des produits à vendre, ben, ils vendent les produits qu'on leur donne, puis ils payent la cote.
Ouais, ils sont entre l'arbre et l'écorce, comme
c'est
on
ça.
Dit.
Okay. C'est ça. Fait que...
Est-ce que tu as entendu parler de l'histoire du week-end dernier avec les 3 femmes qui ont été arrêtées quand même pour
pas
séquestration et mutilation? Non, OK.
Pas
parce
du
qu'on
tout.
Se demande si c'est lié à tout cette histoire.
Je n'ai pas parlé avec les gens à qui j'ai parlé dans la journée d'hier, mais voilà, c'est quand même safe pour la population. Là. Je crois pas que la population soit en danger de ce qui se passe, mais le monde... Relié au monde des stupéfiants, là, vous autres, c'est loin d'être fini. Là.
Ouais.
Si vous pensez avoir repris le cours normal de vos activités, vous devez être très au fait que ce n'est pas le cas.
Je suggérerais de pas être l'oncle non plus de quelqu'un qui est dans ce domaine-là.
Non, c'est
pas
sûr.
Être au mauvais endroit au mauvais moment, mais ça, on le décide moins, comme on dit.
Exact.
12 ans et demi de prison pour un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Jonathan Roussel. Il a fait 32 victimes, dont 29 mineurs entre 2018 et 2021. C'est des cas de leurre, d'agression sexuelle et tout ça. Là. C'est vraiment tous des crimes à caractère sexuel. Et le juge Thomas Jacques a dit que votre cas est tellement lourd que ça aurait requis au moins 40 ans de détention si on avait additionné toutes les peines. Évidemment, on fonctionne pas comme ça ici au Canada. Donc, la poursuite qui réclamait entre 12 et 14 ans de détention. Son avocat, lui, Jonathan Roussel, parlait plus de 6 ans comme peine suffisante. Mais dans son cas, là, leurre informatique, agression sexuelle à plusieurs reprises, production, transmission de pornographie juvénile, harcèlement contre ses victimes. Et lui, ben, il lui reste environ 8 ans à purger là, en raison du temps préventif qu'il a fait jusqu'à maintenant. Massothérapeute aussi, ici à Québec, qui a été condamné à 15 mois de prison pour l'agression sexuelle d'une cliente. Il s'appelle Nicolas Bourgoin. Il travaillait à la clinique Réseau Force Santé de Cap-Rouge en 2022, en mars 2022. Il travaille plus là, vous aurez compris. Massothérapeute de 28 ans qui a profité de sa position. Il a touché les parties intimes de la victime.
C'est une histoire que Karen, tu nous as raconté cette semaine?
C'est un autre,
ça?
Ouais. Il a demandé à sa victime d'abord de se tourner sur le dos. Il lui a retiré sa serviette, a commencé à lui masser les seins, ensuite toucher la vulve, insérer un doigt. Bon, pas besoin de faire un dessin de ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais reste que ça a été... Ça a été donc...
Si j'étais propriétaire d'un salon de massage, je sais pas ce que je ferais.
De massothérapie, tu veux dire?
Oh oui, ça, là, je parle pas des avec une pipe à la fin.
Okay.
Je sais pas, je pense, tout en protégeant la discrétion ou l'intimité de mes clients, je pense que je mettrais des caméras. Je sais pas si... Tu sais, j'essaye de voir comment je pourrais démontrer aux clients que mon personnel est sous surveillance et que jamais leur parole ne pourra être mise en doute. Tu sais, parce que c'est toujours le doute. Tu sais, il y a une cliente qui se fait faire ça, là, pogner un sein puis taponner, là, par un agresseur, parce que c'est le nom qu'on doit leur donner.
Ouais.
De quelle façon on pourrait protéger les clientes?
Mais pas par des caméras.
Mais non.
Aussitôt que ça va être écrit surveillance par caméra, tu vas perdre 82% de ta clientèle.
OK. Mais si je te garantis que c'est dans... Tu sais, j'essaierais d'inventer un genre de système où ça va dans un ordi et au moment où tu sors de ton massage et que tu signes la feuille de dire... Tout s'est bien passé. Mettons, tu fais une feuille d'approbation de la que c'était correct.
Okay.
Ce qui a été enregistré est effacé. Donc, personne ne l'a vu. Tu comprends? C'est pas sur un écran. C'est il y a une caméra qui enregistre. J'essaye d'inventer quelque chose. J'invente ça là.
Moi, s'il y a ça dans un salon de massage,
c'est
quoi, là? Je vais pas.
Non.
Mais pourquoi à quel point tu fais pas confiance à ton staff? Premièrement, là, la première...
Parce que, regarde, il vient de m'en parler de deux encore aujourd'hui.
Je le sais bien, mais c'est pas la majorité. Moi, si tu mets ça dans un centre de santé où est-ce qu'il y a des spas, etc., puis qu'on me dit le massage sera filmé à des fins de sécurité pour les clients et que tout est effacé après, premièrement, je crois pas que tout est effacé après. Je me dis, c'est qui le cochon qui veut se masturber là-dessus?
Non, mais là, c'est parce que là, tu penses croche. Mais d'après moi, il y a pas mal moins de propriétaires de salons de soins de santé déviants qu'il y a de massothérapeutes déviants. Parce que là, on parle d'un à toutes les semaines, au moins. Là.
Je suis d'accord avec toi, mais si moi, tu me dis qu'il faut que tu mettes ça pour rassurer ton public...
OK, mais aurais-tu une autre solution? Puis est-ce que tu vas être rassuré quand tu vas y aller le prochain coup? C'est des salons de massothérapie sérieux, là.
Absolument.
Et qui font ça, là. Mais tu sais, ils engagent du monde, puis c'est du personnel, puis...
Ma solution, j'en ai une, mais radicale.
Toi, ça serait que les femmes massent les femmes et les hommes avec les hommes?
Ouais.
Ouais, j'haïs pas ça.
Jamais t'entends parler de...
On s'entend plus parler non plus.
Donc, j'haïs pas ça. J'haïs pas ton idée. Ça pourrait être ça, mais en même temps, à moins que la cliente demande un massothérapeute en particulier.
Voilà.
Donc,
par défaut, t'es massé par le même sexe que toi, à moins que t'en fasses la demande.
OK.
Ah, mais moi, c'est fini, je vois plus. Parce que moi, je demande tout le temps une femme.
Ouais,
c'est pas de femme massée par un gars.
Je viens de te dire, à moins que tu nous fasses la demande ou d'autres choses.
OK. OK, excuse-moi. Je suis pas eu, dans le fond.
Oui.
Là. OK.
Parce que sinon. J'allais dire la même affaire que Dan.
Pourquoi est-ce que vous faites la demande pour une femme?
Parce que moi, un gars qui me masse, ça marche pas, mettons.
Moi, t'auras pas une bonne expérience dans ta tête?
Ah, j'en ai déjà eu des mauvaises. J'ai arrêté. Absolument. J'ai arrêté.
Tu sais, puis ça dépend du type de massage. Moi, je vais toujours au même endroit, là. C'est tout le temps mon amie Annick, qui est ma masseuse.
Ta massothérapeute?
Il pousse des boutons quand je l'appelle la masseuse.
J'espère bien.
Puis, tu sais, Annick, elle pèse 100 livres. Elle masse comme un gars de 400. Ça n'a pas de bon sens. Elle fait mal, là, je vois le verre. J'ai tout le temps ça. Mais c'est le but du massage.
Moi, je t'avoue que je choisis toujours un gars si j'ai le choix.
Ah, ouais?
Ouais, parce que les... OK, moi, y aller très, très graphique, là. Mais les chances qu'ils pèsent plus fort sont quand même là, à mon avis. Et les doigts sont plus larges. Fait qu'ils rentrent moins pointus dans les dans le dos. Pis
dans
tout
les
ça.
Cavités.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais je trouvais que c'était un petit peu bizarre.
Bon, ben, je pense qu'on n'est pas fous, là. Ça semble gricher.
Mais les auditeurs ne l'entendent. En tout cas, sur Twitch, les auditeurs ne l'entendent.
Ben, je t'annonce.
Non, sur
que
Twitch, ça, c'est sûr
que. Au 25-2-6, les gens demandent si l'antenne vient de tomber.
Ah, OK.
Ouais, mais sur le FM.
Oui, ça a l'air que le gars du bateau de Minneapolis est dans le coin. Pas de Minneapolis.
Baltimore.
En passant, Nicolas Bourgoin, là, il n'y a pas juste ça dans son histoire, hein. Il a reconnu sa culpabilité, oui, mais il a rencontré un spécialiste pour l'imposition de sa peine, puis le rapport indique que son risque de récidive est au-dessus de la moyenne, notamment parce qu'il nourrit de la rancune et de l'hostilité envers les femmes en général. Fait que, disons que lui, s'il ne pouvait pas redevenir massothérapeute éventuellement, ce serait une bonne nouvelle. En tout cas, dans sa probation de 2 ans, la suite de sa peine ne pourra pas devenir massothérapeute à ce moment-là, devra fournir un échantillon d'ADN aux policiers également. Fait que moi, ça ferait le tour. Ah, ben, veux-tu qu'on aille du côté des vélos électriques à Lévis?
Oui, s'il vous plaît.
Parfait. Allons du côté de Lévis. Je vais vous parler de vélos électriques. Oui. il y a plusieurs projets qui ont été annoncés ou réannoncés ou réannoncés par la Ville de Lévis. C'est la tactique Ville de Québec, gouvernement du Québec. Tu prends la même annonce puis tu la fais 40 fois dans les mois suivants. Donc là, la Ville de Lévis nous a reconfirmé plein de chantiers qu'ils avaient déjà confirmés et notamment l'implantation en collaboration avec le RTC du service à vélo, donc sur la rive sud. On parle d'une dizaine de stations, d'une centaine de vélos pour la saison 2025. Là, c'est pas les gros chars, mais on commence par ça, une première phase, puis éventuellement, là, on voudrait grossir le parc.
Plusieurs affaires, là, puis dans ça aussi, je vais avoir un scoop un peu plus tard, je te le dirai d'avance.
Oh.
Mais parce que dans les 10 chantiers annoncés par le maire Lehoulier hier, il y a entre autres ça, là, la demande d'implantation de vélos électriques, la même compagnie Québec, ce qui ferait que les vélos électriques pourraient être utilisés
de part et d'autre.
Donc, tu pars de Québec, tu laisses à Lévis. Par contre, je le sais pas comment tu ferais pour traverser avec ton vélo.
C'est le pont de Québec.
Pont de Québec, mais c'est interdit là au vélo à cause des travaux qui sont actuellement en cours. En tout cas, c'est interdit. À moins que je me trompe, c'est interdit au vélo ou à tout le moins, il faut que tu descendes de ton vélo pour traverser l'autre bord. C'est quand même un kilomètre et quelque, peu importe. Mais ce serait drôle parce que la première forme de transport en commun unifié Québec-Lévis serait les vélos. Avant les autobus, avant tout ça d'autre. Tu sais, quand le ridicule, si le ridicule tuait, il y a du monde qui meurt cette semaine, c'est terrible. Deuxième affaire.
Toutes les semaines, il mourrait.
Et beaucoup de monde, hein, c'est ça. Et on n'aurait plus de dirigeants, c'est ça le problème. Alors, et l'autre affaire, c'est que, bon, il annonce des gros chantiers. Et j'ai eu la chance de parler avec des gens très impliqués dans différents domaines. Vous savez, et c'est là mon scoop. Pour vous le présenter, c'est que ça, c'est pas nouveau, mais si on parle en termes de kilomètres carrés, là, c'est dans 1,8 kilomètres carrés, je crois. La Ville de Lévis est l'endroit où il y a le plus de développement résidentiel. OK? Parce que Lévis-Lévis, l'ancien Lévis, là, Lévis-Centreville, si vous voulez, il y a 5 grues dans un carré d'un peu plus d'un kilomètre carré, vous l'aurez compris, qui sont en train de lever, dont le Fitz, 15 étages, dont le Times, lui, le Times, la grue a été retirée parce que l'hôtel est terminé, et d'autres projets, l'Aubier qu'on annonce ici, et ça, c'est tout rapproché, là, c'est dans un quadrilatère très, très, très précis, et c'est des dizaines de milliers de personnes qui vont être des nouveaux résidents du centre du vieux Lévis, centre-ville, donc, dans les prochaines semaines. Parallèlement à ça, il faut considérer l'arrivée de ces gens-là. Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, le développement d'un quartier résidentiel. Puis on doit se le dire, actuellement, développer un quartier résidentiel, c'est un investissement à très haut risque. Pourquoi? Parce que la construction neuve résidentielle, elle est ralentie. Elle n'est pas inexistante, mais elle est quand même ralentie. Et le problème de Lévis-Centreville, de cette portion-là de la ville, c'est que le système d'égout et d'aqueduc est complètement saturé. Il est déjà saturé à 95%, sinon 100. Il rentre des dizaines de milliers de personnes, et là, on sait que ça fonctionne pas. Et sur la table, actuellement, il y a rien. Alors, si le message peut se rendre à Gilles Lehoulier, Gilles, ça va être le temps que tu débarques de ton bicycle, OK? T'enlèves ton casque de vélo, puis que tu mettes ton carnet puis ton crayon dans ta valise, puis tu te mets à travailler, là. Parce que il y a des développeurs de quartiers résidentiels pour les maisons. Je sais que tout le monde haït les maisons à cette heure, puis les banlieues, les maudits banlieusards, puis tout ça. Sauf que la ville haït pas ça. Comment ça fonctionne quand t'es un contracteur? T'achètes un terrain, OK? Tu sais, je vais donner l'exemple en face de chez nous, à Pintante. C'est des champs. On fait dézoner le champ. Parce que tu vois la rue finit là, il y a des maisons neuves là, puis la rue arrête là. Mais tu vois bien qu'ils ont pas mis une chaîne de rue au bout parce que ça finira pas là. Fait que là, ils font dézoner l'autre partie du champ. Là, ça c'est le propriétaire du terrain qui fait ça. Donc, démarche avec la ville. Changement de zonage. Zonage résidentiel accepté, parfait.
Ça prend pas deux semaines, hein?
Non, ça prend pas deux semaines. Ça s'étale, puis ça s'étale. Écoute bien la suite. Donc, il y a un changement de zonage. Tout est fait avec la provinciale, l'environnement, tout est fait. Là, l'entrepreneur, le propriétaire du terrain, qui généralement est un gars qui construit des maisons, parce que c'est même ça marche, lui, la première affaire qu'il fasse, c'est quoi?
Ben, ça doit être de mettre les égouts, là, l'aqueduc, etc.
Oui, donc lui, il prend son cash, il creuse des trous, il met des tuyaux, il rentre les tuyaux, il tape le dessus, il met de l'asphalte, il met des chaînes de rue, puis...
Il met des chaînes de rue?
Ben oui.
C'est sa job à lui, c'est pas ben la ville, ça.
Non, lui, il fait la rue. Et la journée où il a fini, il prend les clés de la rue et il les donne à la ville. Il est obligé de céder la rue à la ville. Tu comprends? Parce que ça devient une rue publique. Et à partir de là, à la journée 1, ben là, qu'est-ce qu'il fait? Il met en vente, souvent, il y a des terrains qui vont être vendus. Quand un contracteur va développer une rue, les terrains sont vendus en très grande partie. Je pense qu'il ne développe pas de rue avant 50 % de vente des terrains.
OK.
OK? Comme on ne lève pas de blocs à condos tant qu'on n'a pas 50 % des condos de vendus. Il y en a qui l'ont fait déjà dans le passé avant à lever des condos avant d'avoir 50 % de vendus. Je pense qu'il y avait un dénommé UHOT à l'époque, mais c'est risqué financièrement, me dit-on. Donc, faut au moins en avoir 50 % de vendus. Donc là, les entrepreneurs, parce que j'ai bien dit les entrepreneurs, parce que ça arrive dans des secteurs de Lévis, là. Alors, ils ont vendu des terrains, ils ont fait la rue, fait la caduc, ils ont fait l'eau.
Attends un peu, ils ont tout appris après?
Là, ben, ils n'ont rien appris, eux autres. Eux autres, là, ils sont là, ils ont tout fait ça. L'asphalte est faite, la rue est donnée à la ville. OK, parfait. Puis là, Rosaire, lui. Rosaire, il a acheté un terrain. Son plan est fait. Fait que là, Rosaire, il fait une demande à la ville pour un permis de construction d'une maison neuve qui va être construit par l'entrepreneur qui a développé la rue. Parce que c'est lui qui a vendu le terrain. Mais il peut s'auto-construire s'il veut, là. Tu sais, les entrepreneurs sont pas... je dirais que les entrepreneurs, de façon générale, je parle peut-être un peu à travers mon chapeau, mais vont construire... je dirais un tiers, peut-être un peu plus qu'un tiers des maisons de la rue. Il y a du monde qui vont s'auto-construire, du monde qui vont prendre leur propre contracteur, mais le but, c'est de faire la rue puis de vendre des terrains. Puis les terrains sont assez chers que ça vaut la peine. Mais là, imaginez, là, je suis allé voir les secteurs, parce qu'on m'a parlé de ça il y a quelques semaines, puis là, je suis allé voir. Puis là, je me promène dans la boucle de la rue, là. C'est malade, là, c'est une belle grande rue, là. Et tous les permis de construction sont refusés. La rue est faite, la rue a été donnée à la ville, tout est prêt, les terrains ont été vendus, dépose ton plan pour ton permis de construction, refusé. Ils sont pas capables
Mais ça marche pas, Steph.
Mais je sais que ça marche pas.
C'est quoi les...
C'est qu'ils sont pas capables de traiter on n'est pas capable de traiter les eaux usées et de fournir en eau potable.
C'est quoi l'étape où ça a pas fonctionné, là? C'est où que ça s'est pas parlé?
Ben, ça s'est pas parlé parce qu'ils ont autorisé la construction de la rue, puis peut-être qu'ils avaient pas vu qu'il allait avoir des problèmes avec l'usine de traitement des eaux. Puis là, les contracteurs, ils arrivent, ils disent, voyons.
Mais il faut que ça soit fait avant. À la minute où tu donnes le permis, là. Je disais, moi, mettons, comme contracteur, constructeur, etc., je me dirais, bon, ben, ça veut dire qu'il va avoir de la place pour toutes ces maisons-là.
Mais écoute, je suis pas un spécialiste, puis je le sais pas à quelle étape ça a bogué. Je te dis juste que la rue est faite, je l'ai vue. Puis que les permis de construction sont pas octroyés. Déjà que les permis de construction, tu sais, il y a des fois, là, il y a du monde qui se prend, Dan, il l'a dit, longtemps d'avance, là. Puis là, on est juste au permis de construction. On n'était pas au permis de faire la rue, puis des démarches environnementales, à dézoner le terrain, là. On est rendu à la construction, puis les permis sont refusés à cause de l'usine des traitements des eaux. Puis, tu sais, Caillou nous en avait parlé, tu sais, à Saint-Charles, ils ont le même problème. La même affaire, sauf que ils n'ont pas autorisé l'entrepreneur à faire la rue. Parce qu'ils ont dit, on pourra pas te donner le permis de construction. Fait que, fais pas ta rue, là. On pourra pas te donner le permis de construction parce que l'usine de traitement d'eau de Saint-Charles est scrap.
Fait que la ville de Lévis a dormi. Excuse-moi, c'est ça la conclusion à laquelle on doit venir.
Ben, ça se fait dire à Lévis, là. Tu sais, Gilles, il est super fin, là. Mais là, ça va peut-être un peu trop vite, là.
Ben, ça n'a pas de bon sens que la ville ait autorisé le développement d'un projet comme celui-là si tu peux pas te rabattre sur ton système d'accueil.
Je sais. T'sais, les entrepreneurs à qui j'ai parlé, je leur ai parlé de vive voix. T'sais, pas au téléphone, là, j'étais en personne, j'allais les voir. Puis ils disent, regarde, là, moi, comment tu penses que j'ai mis d'argent dans ces développements-là? Là? Puis là, j'ai aucun permis de construction qui est accepté. Puis ils disent, tu sais, ça serait. Ils seraient en train de creuser matin, là.
Ça dort
au gars.
La personne qui pensait avoir une maison dans cette rue-là, la personne là qui a acheté un terrain puis qui pensait se construire dans cette rue-là, qu'est-ce qu'ils font en attendant? Ils restent dans le logement?
Ben je le sais pas. Regarde, puis il y a quelqu'un. Tu veux, ça c'est un secteur que je suis même pas allé. Il y a Briqueville, c'est Lévis. Tu sais, puis s'il y a un endroit où ça va très très bien, puis des belles maisons, c'est bien Briqueville, là, surtout autour du terrain de golf. C'est ça, la ville nous a stoppé à cause de l'aqueduc également, impossible à fournir un nouveau quartier résidentiel. Tout est stoppé. Je vous dis, c'est... Hey, puis ça, c'est dans Bréquéville. Moi, je vous parle de Lévis-Lévis, puis j'imagine que c'est dans bien des secteurs. Puis je vous parle de Saint-Charles-de-Bellechasse, puis le maire qui supplie sa députée, qui, d'après moi, est déménagée quelque part en Australie, là, parce qu'elle semble complètement inatteignable, puis de dire, OK, là, on peut-tu... On a des usines de traitement d'eau qui ne fournissent plus. Puis, tu sais... La ville de Québec et également la ville de Montréal s'est permis de déverser les cacas dans... Vous vous souvenez quand on a déversé tonnes de caca dans le fleuve?
Des milliards. Ils font ça deux, trois fois par année,
Ben parce que les usines fournissent pas. Fait que on dompe la marde dans le fleuve. Puis les petites municipalités, ils n'ont pas accès à ça. Ils peuvent pas faire ça. Pensez-vous que Saint-Charles peut domper sa marde dans la rivière? Ben non, fais pas ça. Fait que pas le droit de faire ça. Fait que ils sont bloqués.
Puis pour ajouter à ce que tu disais, là, tu sais, les déménagements dans la dernière année ont chuté de 50% Rive-Nord, Rive-Sud. Puis là, c'est Hydro-Québec. Là, le nombre de demandes de déménagement logées chez Hydro-Québec, quand tu changes de place, tu avises Hydro-Québec.
Exact.
50% de diminution au cours de la dernière année par rapport aux années précédentes.
Je connais des entrepreneurs qui veulent ouvrir des succursales l'autre bord. Ils peuvent pas. C'est un problème de base qui bloque tout.
C'est ça. Ça bloque vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses et ça va prendre. Moi, je pense, je vais vous dire, j'ai parlé à Gilles, l'autre semaine. Mais tu sais, c'était cordial, ça ne me tentait pas de me chicaner. Tu sais, puis j'avais envie rien que de le secouer. Gilles, on se met dessus, là. C'est ton dernier tour de piste, là, parce que là, on s'entend qu'il va l'annoncer, là, je suis pas mal certain. Là. Ça, c'est moi qui dis ça, mais c'est fini. Là. C'est son dernier tour de piste à Gilles Laulier. Il y a quoi, il y a 71, Gilles, là? C'est assez. Puis, la rumeur qui dit que Stephen Blaney serait intéressé, en tout cas, si lui il l'est pas, nous autres on l'est. Je pense que Stephen, c'est un gars que je connais aussi, qui a été député conservateur très efficace. Stephen Blaney serait un excellent maire de la ville de Lévis. Je dis pas qu'il va révolutionner, vous allez me dire, oui, mais dans six mois, tu vas le traiter d'innocent. Peut-être. Mais le changement peut toujours bien faire. Sauf que Stephen, si je l'appelle, puis j'ai dit, hey, ça grouille dessus, il va m'expliquer pourquoi ça grouille pas. Puis pourquoi il peut pas rien faire, peut-être. Puis pourquoi il va peut-être faire de quoi aussi. Fait que c'est triste. Tu sais, hier, là, quand je jasais hier avec des gens beaucoup plus intelligents que la moyenne de mes dîners que je fais. Fait que Doc Constrom, il est quand même connu beaucoup. Puis c'est un homme extrêmement brillant. Puis, il me fait remarquer quelque chose parce que je lui montrais mes photos de voyage. Vous savez, c'est le fun, montrer ses photos de voyage aux gens.
Si vous en avez à montrer, là, appelez-moi, j'ai assez hâte.
Envoyez-nous-les au 25226.
Non, mais lui, il voulait voir mes photos de voyage du pont Gordie Howe à Détroit. Puis qu'il en venait pas que c'était payé entièrement par le gouvernement canadien et que c'était un pont entièrement fabriqué à Québec, livré à Windsor et à Détroit pour son assemblage et sa construction. Il me dit, oui, mais regarde l'autre pont de Détroit. Parce que il va y avoir deux ponts et un tunnel, trois liens entre Détroit et Windsor. Il dit, puis là, moi, je la connais, l'histoire du pont de Détroit, du Ambassador Bridge. C'est un pont qui a été construit en 1930 par la famille Watson, qui est un pont privé. Puis les autres, ils ont dit, nous autres, on va charger les véhicules. Ça va être temps par passage, puis ça va payer notre pont. Et ça s'est avéré une source de financement pour l'entreprise, qui était une entreprise de camionnage, une source de financement très importante. Ils sont devenus extrêmement riches avec les passages. Tu sais, aujourd'hui, ça coûte 70 piastres par camion. En passant, l'Ambassador Bridge qui traverse de Windsor à Détroit, il y a une seule voie dans chaque direction. Hein. Et c'est là que la référence du doc est venue. Il dit... regarde notre mentalité à nous autres. On a un pont Ambassador Bridge, inauguré en 30 ou 32, là, je me souviens pas de l'année, mais c'est pas tellement important, mais autour de 1930, qui est dans un état, j'allais pas dire parfait, parce que je suis pas rentré en dessous, mais il y a aucune crainte et inquiétude de traverser l'Ambassador Bridge. Il est vieux, il est en métal, il est vert, il est étroit, mais il a été entretenu année après année. Il est donc dans un état parfait. On est aujourd'hui à 100 ans d'usure de ce pont-là. Et le nouveau pont vient pas remplacer l'Ambassador Bridge. Il vient détourner le trafic du centre-ville de Détroit et de Windsor. Hey, le tunnel, là, il sort en plein cœur de Windsor, dans des petites rues. C'est assez épouvantable. Allez, gars. Il dit, regarde nous autres. Le pont de l'île d'Orléans. Le pont de l'île d'Orléans, inauguré en 37, c'est ça? Oui. Puis là, on dit, sa vie utile fait longtemps qu'elle est passée. Puis, mais pourquoi qu'eux autres, en 1930? Puis on est à peu près, on est pas au même parallèle, mais Windsor et Détroit sont quand même des villes avec des saisons un peu comme les nôtres, un petit peu moins rigoureux, mais un peu comme les nôtres. Ils l'ont tout simplement entretenu. Tu sais, je suis pas contre le nouveau projet du pont de l'île. Oui, c'est cher, mais on a tellement laissé aller, on s'est tellement fait dire « il est scrap, on y touchera pas », que là, on a peur de le traverser même à pied. Fait que c'est grave. Tu sais, quand on compare... On n'arrive pas à trouver des éléments identiques. Ils l'ont entretenu, ils s'en servent encore, puis ils vont s'en servir encore un bout. Nous, on a tout simplement lâché prise, puis il va en arriver la même affaire avec le pont de Québec tantôt. Oui,
on chicane avec Ottawa pour ça.
Il se passe à rien. Puis là, c'est comme bien des bâtiments à Québec qui sont abandonnés. Je sais pas qu'est-ce qu'on attend. Puis on attend que d'être plus capable. Tu sais, c'est drôle parce que l'église...
Les viaducs, c'est ça.
Il
a fallu qu'il en tombe un pour qu'on se réveille. Ah, on faudrait s'en occuper de nos viaducs.
Ouais, c'est vraiment... Alors, c'est ce qui est un peu décourageant, c'est de voir comment tout ça est géré et comment tout ça est fait. Puis on abandonne, puis tout est vieux, on jette trop, peut-être trop vite. Mais je voulais juste vous donner deux comparaisons de ponts inaugurés à peu près en même temps, mais qui arrivent à des étapes de vie extrêmement différentes. Un est en train de tomber alors que l'autre est encore très utilisé. OK, je vois le temps qui file. Vos nouvelles du jour. Dan, je commence avec toi.
Ben, moi, c'est très léger. C'est, tu sais, à quel point...
On a besoin de légèreté, on est vendredi.
Parfait. Tu sais à quel point j'aime les chiffres. Ce soir, à l'Automax, c'est 70 millions.
OK.
Donc, c'est un des plus gros lots de l'histoire du Québec. Le jeune homme auquel tu faisais référence plus tôt cette semaine, le jeune homme de Saint-Romuald, avait gagné 70 millions en 2020. Le jeune qui travaillait dans une épicerie. Ben, ce soir, c'est 70 millions. Puis, je savais pas que Mario Dumont aimait les chiffres autant que moi, mais il a fait un article intéressant dans le Journal de Québec. Il a dit là, premièrement, 70 millions, vous avez une chance sur 33 millions de gagner.
Mm-hmm.
OK? Et c'est 150 fois... dans le fond, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre cet été que de gagner à la loterie 150 fois de différence entre les deux.
Okay.
Tu comprends? Fait que finalement, il n'y a pas grand chance que quelqu'un gagne ce soir. Sauf que si on n'essaie pas, la théorie des gens qui s'accrochent au rêve, c'est que si on n'essaie pas, on ne gagnera pas.
Exact.
Lui, il dit parfait. Il dit on va prendre 20$ investis dans les loteries par semaine. Puis on se fait dire ça quand on est jeune. Hein? Mets de l'argent tout de suite, mon Stéphane, si tu veux avoir une belle retraite. OK? Puis on n'écoute pas tout le temps les gens qui nous disent ça. Fait que lui, sa théorie, Mario Dumont, c'est tu mets 20$ par semaine de 25 à 65 ans. OK?
Oui.
Fait que ça donne sur 40 ans. À la fin, avec les taux d'intérêt, puis le fait que c'est de l'intérêt cumulé,
rendements, ouais.
Les rendements aussi, tu finis, tu as 649 000. C'est pas loin du million. Mais c'est, pas, c'est pas 70 millions.
T'as ajouté les rendements, là.
Oui.
OK.
20$ par semaine, de 25 à 65, à la fin, ça donne 649
000. OK.
Mais t'as pas passé proche jamais de gagner 12 ou 15 millions, là. Parce que t'as pas acheté un maudit billet. Tu l'as mis en placement, une affaire plate, quand t'as 25 ans.
Mais qui est sûr.
Exactement.
C'est l'idée derrière ça, est génial.
C'est hey, ça.
20 piastres par semaine, c'est pas beaucoup. C'est on commencerait à quel âge, je dis?
25.
À 25 ans?
Ouais.
Hey, mes gars, ils ont 24, 22, je pense que je vais leur faire ça.
Ben oui, oui, oui. Puis, hey, fais-le automatiser dans leur compte, là, qu'ils ne voient même pas passer.
Je veux pas parler d'institutions financières une ou l'autre. Là, puis moi, j'essaie d'encourager les gens autour de moi. J'ai des affaires à la Banque nationale quand même pas mal. Hey, d'ailleurs, je veux t'en parler de Richard tantôt, un peu de nouvelles. Hein?
Non.
Et donc, j'ai des affaires à la Banque nationale, j'ai des affaires dans les caisses, évidemment, puis même dans différents secteurs, peu importe. Là. Puis, tu sais, ma cousine, elle m'appelait pour un placement qui était échu, là, qui avait été fait il y a... C'est ça, il y a 5 ans ou 6 ans, c'était quand même important dans les détails, mais je m'en souviens pas, mais elle l'a dit tantôt au téléphone. Mais tu sais, j'ai fait 34,8% de rendement. OK, donc ça donne...
C'est énorme.
Ouais, mais c'est, tu sais, sur le total des années, donc ça donne 6 quelques par année.
OK, OK, OK.
Tu sais, tu comprends?
Quand tu le cumules, oui.
C'est ça, quand tu le cumules, ça te donne ça.
Okay.
Mais quand même, tu sais, sur un placement raisonnable, tu sais, un montant X, j'ai fait...
On s'entend que si tu l'avais pas placé, Steph, tu l'aurais dépensé.
Ben, c'est ça, elle dit. Puis Steph, t'as mis cet argent-là à l'abri de l'impôt. Parce que c'est un REER que j'ai pris à un moment donné.
Okay.
Oh, il ne faut rien à cacher, puis c'est une affaire. J'ai mis 27 000 dans le REER.
Okay.
Puis, à matin, là, il était à 36 800. Tu sais, j'ai fait 10 000 $
T'as rien fait.
puis j'ai rien fait. Puis elle dit, tu l'avais mis à l'abri de l'impôt. Je dis, non, Karine, n'a rien compris. Je l'ai mis à l'abri de deux affaires, de l'impôt puis de moi-même. Tu sais, fait que...
Ouais, c'est ça.
Et là, elle a parti à rire aussi. Fait que si Danny Bussière entend ça, il va rire lui aussi. Fait que c'est un peu l'objectif de tout ça. Puis ça m'a réconforté un matin. Puis là, ça m'a fait réaliser aussi de... J'ai demandé des renseignements sur d'autres placements que j'avais, puis de voir où j'en étais dans tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Moi qui n'avais jamais pensé, j'ai été très chanceux dans la vie, là, mais qui n'avais jamais pensé à mes vieux jours, j'ai quand même été capable d'établir une certaine base. Je comprends que c'est pas fait pour tout le monde, mais le 20$, c'est sûr que je vais le faire faire. Je vais le faire faire en prélèvement autorisé, mes gars, obligatoire. Je trouve ça trop génial. Je l'avais jamais calculé. Merci de partager ça avec nous autres. Karen.
Hey, moi, c'est pas mal moins intelligent, mon affaire, mais si on peut prévenir quelqu'un, pourquoi pas? Ça se passe notamment sur les réseaux sociaux. Ce sont des influenceuses, dont la gagnante d'Occupation double Martinique, Claudia, et Victoria Colt, que vous connaissez peut-être pour plein de raisons, notamment des courts-métrages pour adultes. Et elles, en fait, ces deux-là sont en train de faire la promotion d'un poison de grenouille pour vous détoxifier, OK? Ça se fait principalement au Mexique, au Pérou.
Hey, laisse-le faire.
Ouais, non, mais c'est parce qu'il y a du monde qui est suivi et qui pourrait tenter de faire ça, OK?
Et ouais, là, mais ça, tu le sais, on a déjà eu la discussion, puis je voulais pas qu'on chicane. Mais toute cette gang-là des téléréalités se sont créées une communauté qui est complètement à part de la communauté de la société. Tu sais, il y a du monde qui se... Ils ont créé quelque chose, mais c'est entre eux autres, là, tu sais.
Ben, je comprends ce que tu veux dire, entre eux autres, pour ce qui est de la publicité et tout, mais il y a quand même des gens qui vivent dans la société, qui vont aller, qui sont dans leur voiture aujourd'hui, qui vont aller travailler, qui payent des impôts, etc., qui suivent ces gens-là. Je te dis pas qu'ils vont nécessairement aller faire cette thérapie-là, mais c'est parce qu'elles vantent les bienfaits de ça.
D'une thérapie de poison de grenouille?
Oui, exactement.
Tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par des...
Ben, elle, là, ce qu'elle dit, c'est... Je t'explique le principe, OK, du Cambo, là. C'est une substance toxique cireuse qui est récoltée en grattant la peau d'une grenouille singe géante qui est encore vivante, OK? Après ça, ce qu'on va faire pendant le rituel chamanique, on va faire des brûlures sur la peau et en forme de petits points. Puis après ça, c'est gros comme un poids. Puis après ça, le chaman en question, il va coller le venin qui a été récolté de la grenouille singe géante. Hein? On se rappelle qu'elle était vivante lorsqu'on a gratté sa peau.
J'ai honte à la chronique cinéma.
Attends, on met ça directement sur la plaie. Et là, ce que ça fait, c'est que tu vas vomir. OK, après, mettons, 25 ou 30 minutes. Puis là, ce que ces influenceuses-là disent... Ah, calice!
Non, mais on veut imager ton propos.
Ben oui, elle dit... Ah!
Mais comment les suiveuses...
Oui.
Parce que toi là, tu sors pas des détails qu'on n'a pas. Ça, c'est la réalité de ce que eux proposent aux clients. Là.
Ben oui, c'est ce que.
Donc ils vont vomir et.
Ben que ça va les détoxifier de leur corps et tout là. Donc là, on est dans la détox, OK? Et il y a un médecin qui a parlé puis qui a dit ben écoutez là, sachez que. Certaines personnes ont tellement vomi en faisant ce genre de rituel-là qu'ils ont eu une perforation de l'estomac et de l'œsophage. Et dans plus de 50% des cas, ben ils se ramassent à l'hôpital, ont développé des troubles de gestion de leur sodium aussi. Donc, c'est ça. C'est tout simplement pour vous dire que si vous voyez ça puis que vous seriez tenté d'aller faire une belle détox au Mexique avec du venin de grenouille sur la peau pour faire une détoxification de votre corps, ben sachez que ça risque de vous faire plus de tort que de bien.
Ça va être l'élimination naturelle.
C'est ça. S'il y a des influenceurs, c'est parce qu'il y a des influencés.
Oui, je comprends.
Faut jamais oublier ça.
Mais ça prend un petit peu de jugement.
Idéalement, t'sais, oui.
Pis, je le comprends. Puis il y a des gens, là, oubliez pas que ça s'adresse pas aux gens ordinaires. Ça s'adresse aux gens faibles, qui sont en position de faiblesse, que ça peut l'être. Moi, tu sais, des fois, je vous l'ai raconté souvent, ma mère est allée à Hippoluxo, ma mère était malade. Elle avait 40 ans. Elle avait de la misère à marcher parce que son arthrite était trop fort. Et tout ce qui existait comme charlatan et traitement ridicule comme ça, elle avait envie d'y croire. Ben oui. Parce qu'il n'y avait aucune solution médicale, logique ou même expérimentale qui existait. Donc, elle était allée faire à Hippoluxo. C'était sorti dans l'actualité à un moment donné parce que il y a une mère qui avait envoyé sa fille de 14 ans là. Puis moi, j'étais en Floride à cette époque-là. Puis ma mère était allée passer deux semaines là. C'est une purification de l'organisme par du jus de gazon. C'est des galettes de tourbe qui sont sur des tables. Puis là, tu as des ciseaux, tu te coupais une poignée de tourbe, tu mettais ça dans le blender avec deux, trois jus qui étaient là sur le bord. Tu faisais blender ça, puis tu buvais du jus pendant deux semaines, tu faisais rien que ça. Qu'est-ce qui arrivait? Ben, il arrivait que tu maigrissais, puis ma mère a failli pas s'en sortir. Tu sais, il a fallu que je l'arrache de là. Mais elle voulait se rendre au bout de la thérapie parce que elle voulait voir si ça pouvait pas la guérir. Mais elle était en position de faiblesse, dans le sens où t'as une maladie, puis, tu sais, demain matin, on m'annonce un diagnostic de Parkinson, ou encore de l'autre là, qu'on oublie tout,
Alzheimer.
Écoute, ouais, s'ils me disent que le traitement de grenouille, là, qui vont me faire vomir, vont m'empêcher d'avoir l'Alzheimer, je pense que je vais y aller. Parce que tu deviens en position de faiblesse, puis t'as envie de croire à tout. C'est là que les gens autour sont importants, des gens plus neutres, plus froids, moins impliqués, moins émotifs, ben vont t'aider à voir clair
mais
à travers
là,
ça.
Mais là, mettons ta mère ou le Parkinson ou peu importe qu'on t'annonce, on parle d'une situation majeure, là. Mais les gens dont on parle ici, puis des gens qui sont vulnérables comme ça, qui mordent à l'hameçon d'affaires ridicules, là, tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'être aussi grave que quelqu'un qui est au bord de la mort, là.
Ben, je comprends. Ça peut être plus simple que ça, mais
c'est dur à juger parce que ce qui est ridicule pour un a de l'allure pour l'autre. Je veux dire, t'as des millions de personnes qui croient qu'il y a un bonhomme qui est mort, puis il est revenu, puis il y avait des trous dans les mains quand il est revenu, puis on achète des chocolats. La journée qui est revenue. C'est tout aussi ridicule.
Ben oui, je sais.
Mais il y a des millions de personnes.
On donne des cadeaux à sa fête.
Hey, j'ai écouté un documentaire écœurant là-dessus, hein.
C'est vrai?
Ils ont remis en question toute la vie de Jésus. De ses parents, de son lieu de naissance. Tu sais que son lieu de naissance est impossible à démontrer. Même son lieu de sépulture. Sont même pas. Il y a des gens qui vont visiter le tombeau de Jésus aux abords. Et c'est même pas le bon endroit. Il y a un endroit qui est 100 fois plus plausible que où Jésus aurait pu être. Parce que des Jésus, là, à son époque, il y en avait beaucoup.
Des Jésus.
Oui, des Jésus, on a connu
des genres de gourous de leur époque, là, mettons. Là,
non, pas gourous, non, pas des gourous.
Des leaders, mettons. Là.
Non, des gens ordinaires, mais qui s'appelaient Jésus. Parce que à la recherche du tombeau de Jésus,
c'était Stéphane de l'époque.
C'est qu'il fallait qu'ils trouvent, c'est que tous les membres d'une même famille sont mis dans le même tombeau.
Okay.
On est il y a 2024 ans.
Oui.
Et même ça, des fois, s'est mis en branle sur l'année 1, là, mais ça, c'est bien complexe. En tout cas, c'est des centaines de scientifiques qui se sont mis à analyser tous les facteurs que l'on peut retrouver dans l'histoire de Jésus.
Ce qui est probable, puis déterminable.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses impossibles à déterminer, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez simples à dire. Ça, là, ça se peut pas. Tu sais, comme par exemple, transformer l'eau en vin, les travailleurs habituels faisaient ça. Tu sais, c'était pas un miracle, c'est que les barriques de genre de calcaire ou de pierre, je connais pas ça, là. J'ai écouté le documentaire scientifique.
Ça fermentait, puis ça faisait du
vin. Oui, c'est ça, et ils se le faisaient pour eux-mêmes. Mmh. Ils servaient du vin à leur maître, puis ils sacraient de l'eau des fois dans le baril, ils laissaient ça là un peu, puis ils se faisaient du vin à eux autres. Chipette, mais du vin. Fait que, tu sais, c'est...
Je veux pas fâcher personne, là. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Je vous dis juste que ridicule, c'est relatif. Mais
est-ce que tous les croyants sont vulnérables ou sont des gens vulnérables?
Moi, je pense que oui. Ben,
on a tous besoin de croire en quelque chose.
Ben, ça va arriver à la fin de nos jours. Je peux
de redevenir croyant, tu veux dire?
Ou croyant en quelque chose, parce que de s'imaginer qu'on va mourir puis qu'on reviendra plus jamais.
Parce qu'on a tout fait ça pour rien.
C'est ça. Fait que
les gens vulnérables qui peuvent mordre à des trucs comme dont Karen nous a parlé, là, vous pensez que c'est quel pourcentage de la population, mettons?
C'est beau.
Ben écoute, Eve Côté, l'humoriste, on me dit que dans son spectacle, elle raconte l'expérience de la grenouille parce qu'elle l'a vécu au Mexique.
Il y en a assez pour faire vivre beaucoup de gourous et d'entreprises à des millions et des milliards.
Si c'est 1% de la population québécoise, c'est presque 100 000
personnes.
C'est
30, 40.
Ah, mais
les gens vulnérables, toi tu parles de gens vulnérables, mais qui vont adopter à différentes choses.
Mais si c'est
Il y a du monde qui allait à l'église de Mogingo, comment il s'appelait?
Mogingo?
C'est ça.
Ouais.
S'il
n'était pas parti, il y a du monde qui serait encore là.
Ben, il y a encore du monde là.
Oui, ça continue cette histoire-là.
Il va devenir un dieu, lui. En tout cas, un dieu de l'arnaque, ça c'est sûr.
Je répète les chiffres. Si on est à 1% de la population québécoise qui croit à ces niaiseries, là, on a presque 100 000 personnes de même.
Qui adaptent. Je veux vraiment me partir une église.
Ben, je sais pas. On pourrait partir à pause.
aussi. On essaye ça.